Bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Et c'est vrai qu'avec les vacances, on a rapidement l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a des va-et-vient et donc parfois on a l'impression que pendant plusieurs semaines, on n'a pas vu les uns les autres. Mais je suis content de vous voir en ce mois d'août aussi nombreux. Et tout de suite, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez déjà reçu ce genre d'invitation? En 2020, nous avons eu ce carton d'invitation par un duc, le duc de Blacas, en réalité qui nous a été donné par la gérante de chambre d'hôte. Donc on ne connaît pas personnellement ce duc de Blacas. Mais malgré tout, d'avoir ce carton, voilà, elle en distribuait à quelques-uns et ça permettait d'avoir une entrée gratuite dans le château que vous voyez là, eh bien malgré tout, on a une certaine fierté. Même si on ne connaît pas le duc en question, on a une certaine fierté d'avoir ce carton d'invitation et de se dire, bah, c'est comme si le duc m'invitait personnellement à venir visiter son château. Comment avons-nous réagi quand Dieu, le roi de l'univers, nous a invités à entrer dans son royaume? Avons-nous ressenti aussi un privilège immense? Nous continuons effectivement notre série sur les paraboles de Jésus et celle que nous venons de lire est une de celles qui commence par « Le royaume des cieux ressemble à ». En entendant cette parabole, qu'est-ce que cela vous inspire? À quoi vous pensez? Deux, trois mots de contexte d'abord. Jésus est à ce moment-là à Jérusalem. C'est sa dernière étape avant d'être crucifié. Il enseigne dans le temple et les chefs des prêtres et les pharisiens lui cherchent querelle, entrent en confrontation avec lui. La tension à ce moment-là, dans ces chapitres-là, de Matthieu 21, 22, 23, la tension est palpable. Ces chefs religieux veulent mettre la main sur Jésus, mais ils craignent en même temps la foule qui considère Jésus comme étant un prophète, un homme important, un envoyé de Dieu. Et Jésus a eu l'occasion déjà de leur raconter deux paraboles pour pointer du doigt leur incrédulité. Et donc notre parabole, celle d'aujourd'hui, est la troisième de la série. Et elle illustre également la mauvaise attitude de ces leaders spirituels. Jésus n'est pas tendre avec ses opposants. Il leur dit clairement qu'ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et soulignons que ce contexte est vraiment tout particulier. Parce que ces hommes, en fait, se dressent contre Jésus en personne, contre le Fils de Dieu en personne, contre l'envoyé de Dieu. Autant dire que leur attitude est outrageante. Ils s'opposent à Dieu lui-même en face d'eux. Et c'est ce que Jésus fait ressortir dans la parabole, une attitude outrageante. Mais avant d'en parler, eh bien, voyons d'abord ce qui est positif et même ce qui est réjouissant dans cette parabole. Parce qu'on nous parle d'un festin royal. On nous parle d'un festin royal et Jésus, qui a cet art de raconter les paraboles, eh bien, nous raconte cette histoire qui ressemble un peu à nos contes de fées. Un roi organise un festin pour les noces de son fils. Et bien sûr, nous nous attendons à ce que dans ce festin, il y ait du beau monde. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Ceux qui ont reçu l'invitation ne veulent pas venir. Pourtant, qu'est-ce qui ne va pas avec cette invitation? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que le roi leur propose? Absolument rien. Il n'y a rien qui n'aille pas. Le roi invite généreusement du monde pour ses festivités. Le royaume des cieux est comparé à cette généreuse invitation royale. Certains ont vu une allusion possible au festin qui est décrit dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 25, verset 6, nous lisons ceci. Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, des plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. Voilà la description de ce que Dieu prépare pour les nations, pour tous les peuples. Un festin de plats succulents. il est clair que Dieu a de bonnes choses en réserve. Et l'image du festin indique bien la qualité supérieure de ce qui est proposé. Si nous revenons à notre parabole, nous voyons que le roi a aussi préparé un magnifique festin. Cela nous est décrit au verset 4. « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Il ne manque rien sur cette table dressée. Imaginez que figure sur cette table tout ce que vous aimez manger. Et là, je vois l'imagination qui tourne. Tout ce que vous aimez manger, les meilleurs plats. Le roi ne souhaite qu'une chose, que ses invités en profitent. Tout est prêt. Mais après le refus obstiné des premiers invités, eh bien le roi ordonne à ses serviteurs d'aller chercher d'autres convives. Puisque les premiers n'ont pas voulu venir, eh bien, il ordonne de chercher d'autres invités. C'est ce que nous lisons au verset 8 et 9. « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Le festin est prêt et il est destiné à être consommé. Il faut aller chercher d'autres personnes. Et là aussi, nous voyons la générosité du roi. Et ce roi n'est pas sélectif selon les critères de la haute société. Invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Tous ceux que vous trouverez dans la rue, invitez-les. Et si les serviteurs tombaient sur des gens de mauvaise vie, et s'ils tombaient sur des gens peu fréquentables, peu recommandables, eh bien qu'ils viennent, ils sont aussi invités. Et Jésus le raconte ainsi au verset 10. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Le Seigneur montre par cette parabole que nous avons un Dieu aussi généreux que ça. Il appelle très largement. Et la fin de l'évangile de Matthieu indique que c'est un appel qui est adressé à toutes les nations. Certains refuseront, montreront de l'indifférence, préféreront leur vie à celle que Dieu offre, et puis d'autres répondront positivement, comme un certain nombre d'entre nous l'ont fait. Ce que Dieu a en réserve, ce qu'il offre à l'humanité, est forcément d'une qualité supérieure à tout ce que ce monde peut nous proposer. Et quelle fête ce sera d'être en présence du Dieu qui nous aime. Oui, ça ressemblera sans doute à un festin royal. Si nous pouvions voir de nos yeux à quoi cela ressemblerait, je suis sûr que nous délaisserions ce qui nous fait tellement envie ici-bas. Si nous pouvions avoir juste un aperçu de nos yeux de à quoi ça pourrait ressembler, je suis sûr que nous délaisserions tout ce qui nous fait envie ici-bas. Or, tout ce que nous avons comme aperçu se trouve dans la parole écrite de Dieu, dans les mots de Jésus qui nous parlent de ce royaume. Et l'apôtre Pierre en parle en termes d'héritage. Voici comment il s'exprime en 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Un héritage qui ne peut pas perdre son éclat, littéralement qui ne se flétrit pas. Eh bien, il est pour celles et ceux qui ont placé leur confiance et leur espérance en Jésus-Christ. Un festin royal. Le roi invite généreusement au festin des noces. Dieu nous invite dans son royaume. Qui refuserait une telle invitation? Qui ne voudrait pas d'un tel festin? Et pourtant, d'après cette parabole, il y a bien des gens qui n'en veulent pas. Il y a bien des gens qui n'en veulent pas, à commencer par les chefs religieux de l'époque. Et c'est pourquoi, eh bien, il est aussi question d'une attitude condamnable dans notre parabole. Il y a des éléments qui sont plus sombres dans cette parabole. Une véritable tragédie. Alors que le roi envoie dire que tout est prêt et que les invités peuvent venir, voici comment ils se comportent. Regardez le verset 3, « Ils ne voulurent pas venir. » Et verset 5, « Négligeant l'invitation, eux s'en allèrent l'un à son champ et un autre à ses affaires. » Et verset 6, encore pire, « Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. » Qui ne voudrait pas de cette invitation du roi de l'univers? Et pourtant, voyez l'attitude de ses invités. En lisant cela, nous nous disons que ces invités n'ont aucun respect pour le roi. Certains estiment avoir mieux à faire. S'occuper de son champ, de ses affaires, de son commerce, c'est plus intéressant que de venir à un festin royal. Mais le comble de l'ignominie est que d'autres s'en prennent violemment aux messagers du roi, jusqu'à les tuer. Et au vu de ce que j'ai dit à propos du festin, ce magnifique festin, ces plats succulents, il est difficile de comprendre un comportement aussi ignoble, un tel usage de la violence. Un chapitre plus loin, au chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, Jésus dit aux pharisiens, « Vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. » Jésus attaque violemment ces chefs religieux. « Vous êtes bien les dignes descendants de ceux qui ont tué les prophètes, parce que vous faites de même. » Et le plus terrible est que ces responsables religieux vont comploter pour ôter la vie à Jésus lui-même, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Une telle hostilité, nous la retrouvons encore aujourd'hui chez ceux qui persécutent, parfois avec acharnement, nos frères et sœurs à cause de leur foi en Christ. Les ennemis de la croix usent de violence pour faire taire le témoignage chrétien, pour faire taire l'Évangile. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils se comportent comme les adversaires de Jésus, comme les invités de la parabole ici. Oui, cette réalité de cet acharnement, de cette hostilité ouverte à l'égard de Dieu, nous la retrouvons encore aujourd'hui. C'est une réalité. Et je repose encore une fois la question, peut-on refuser l'invitation d'un roi si généreux? Regardez ce que ces invités font. Alors, en voyant cela, peut-on blâmer la réaction du roi? Peut-on vraiment blâmer ce que le roi va faire au verset 7? À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Est-ce qu'on trouve cela trop sévère? Du fait de son autorité, le roi peut immédiatement châtier ses opposants. Et certains commentateurs ont pu voir ici une allusion peut-être à la chute prochaine de la ville de Jérusalem en 70. Peut-être y a-t-il une allusion ici. D'autres plus prudents considèrent que ici Jésus décrit simplement une image du jugement de Dieu, au même titre que la condamnation de l'invité qui n'avait pas son habit de noces. Et nous retenons en effet que les invités indignes ne profiteront pas du festin organisé par le roi. Le royaume des cieux ne comportera aucun rebelle. Et c'est suffisamment répété dans la Bible pour que ce fait ne nous surprenne pas lorsque nous le lisons. Nous ne sommes pas choqués par la réaction du roi, tellement le jugement de Dieu est répété à maintes reprises dans sa parole. Dieu exercera une justice parfaite où ceux qui ont accepté son invitation bénéficieront de ses bénédictions et où ceux qui ont rejeté cette invitation seront bannis, loin de sa présence et pour l'éternité. Et qu'en est-il justement de l'invité qui est venu sans la tenue appropriée? Nous avons tous, je pense, ici, assisté à un mariage, et encore récemment avec Clément et Chloé. Ce jour-là, en tant qu'invité, nous faisons un effort vestimentaire. Normalement. Nous ne venons pas avec notre tenue du quotidien en jogging décontracté. Nous mettons au contraire une de nos plus belles tenues. Nous habillons même nos enfants qui n'ont rien demandé. Parce qu'après tout, il s'agit d'un mariage. Dans la parabole de Jésus, il y a ce malheureux qui est repéré par le roi. Et certains ont pu dire qu'à l'époque, le roi fournissait peut-être des habits de noces à ses invités. Mais cela reste à prouver. Nous ne sommes pas certains que c'était vraiment la pratique de l'époque. Tout ce que nous savons, c'est que cet homme en question, eh bien, face à la question du roi, ne sait pas quoi répondre. Regardez le verset 12. Le roi lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habits de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Le voilà confus, comme nous le serions peut-être si nous venions mal habillés à un mariage. Là aussi, le comportement de cet homme est condamnable. Venir à une fête sans l'habit de circonstance, c'est un manque de respect à l'égard de l'hôte qui invite. Cela ne peut pas être un oubli de sa part, mais forcément un acte volontaire. Je vous donne une autre situation. Lorsque nous passons à un entretien d'embauche, eh bien, nous respectons aussi un certain code vestimentaire. En tout cas, nous ne nous présentons pas mal habillés. Enfin, je ne pense pas. Nous voulons au contraire faire bonne impression. Par contre, si nous n'avons aucune intention d'être présentables, eh bien, là, nous n'allons pas faire d'efforts et venir peut-être comme on est. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un oubli, c'est un acte volontaire. Ici, celui qui a été invité mais qui ne porte pas d'habit de noces est venu volontairement sans cet habit de noces. Et c'est un affront pour le roi, une offense. Le roi énonce immédiatement sa sentence, vous le voyez au verset 13. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Les ténèbres du dehors évoquent le lieu où demeureront tous ceux qui n'auront pas pris au sérieux l'invitation du roi. Ceux-ci seront rongés par un regret permanent. C'est ce qu'évoquent les pleurs et les grincements de dents. Un regret permanent. Et le cas de cet homme qui n'est pas venu en habit de noces a été diversement interprété. Les uns se sont demandé ce que signifie en fait cet habit de noces qui fait défaut à cet invité. Certains ont suggéré qu'il s'agit de la justice accordée à ceux qui ont cru en Christ. Ce que nous appelons aussi la justification. D'autres pensent que cet habit représente les bonnes œuvres qui sont le fruit d'une vie de foi. Et d'autres encore ne voient aucun indice dans notre parabole qui irait dans ce sens et préfèrent souligner que l'homme en question ne s'était pas préparé aux réjouissances. Il est venu comme ça. Cela nous interroge aussi. Sommes-nous prêts pour l'éternité ? Êtes-vous prêt pour passer l'éternité avec Dieu ? Êtes-vous prêt maintenant ? Avons-nous, dans cette vie présente, répondu à l'invitation de Dieu ? Et Jésus conclut ainsi sa parabole. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Beaucoup sont invités, c'est la générosité du roi. Beaucoup sont invités. Mais peu sont choisis. L'évangile est prêché à de nombreuses personnes, depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Mais le fait d'entendre l'appel du Seigneur implique une réponse. Et les choisis, les élus, ce sont celles et ceux qui répondent favorablement à l'appel du Seigneur. Quand Jésus dit ici que peu sont choisis, cela ne signifie pas que les élus seront juste une petite poignée de personnes. Ou comme le pensent les témoins de Jéhovah, seulement 144 000. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Il met en contraste le peu avec beaucoup. Dieu veut que toutes les nations entendent son appel à croire en Jésus. Mais la réalité que nous constatons encore aujourd'hui, c'est que celles et ceux qui veulent suivre véritablement le Seigneur sont une minorité. Vous le savez, les chrétiens évangéliques sont une minorité en France et dans d'autres pays. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Quelle que soit la manière dont nous comprenons la doctrine de l'élection, cette parabole met en évidence la responsabilité humaine. Celles et ceux qui rejettent le message de l'Évangile, le message du salut par grâce, sont responsables de leur choix. Celles et ceux qui ne se sont pas préparés pour l'éternité, qui ont mis tout leur temps, toute leur énergie, tout leur argent dans les affaires de ce monde, sont responsables de leur choix. Et c'est délibérément qu'ils ne se sont pas souciés du royaume de Dieu. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Cela nous donne à réfléchir. Et c'est à cela que j'aimerais nous amener justement notre réponse. Quelle est notre réponse à l'invitation du roi ? Adressée aux chefs des prêtres et aux pharisiens, cette parabole met l'accent sur leur culpabilité, sur leur endurcissement, sur le fait qu'ils n'auront pas part au royaume des cieux. Et pour nous qui lisons cette parabole, le message n'est pas un message de condamnation. Il y a une invitation. Comme d'autres ont pu le dire avant moi, c'est une parabole qui nous encourage à nous examiner. C'est une parabole qui nous encourage à entendre les avertissements de Jésus. Si nous n'avons pas encore accepté le message de grâce, il est encore temps ce matin d'y répondre. Jésus est venu dans ce monde pour accomplir une mission très spécifique. Il a mené une vie en toute obéissance à Dieu, contrairement à la vie que nous avons menée jusque-là. Il a réussi là où nous avons fréquemment échoué. En tout point, il n'a jamais péché. De telle sorte qu'en offrant sa vie en sacrifice, c'est un sacrifice parfait qu'il s'est donné. Et sa mort sur la croix nous est présentée dans la Bible comme la juste condamnation qui devait frapper les pécheurs que nous sommes. Mais à notre place, c'est l'homme innocent, Dieu le Fils incarné, qui est mort pour nos péchés. Et Dieu l'a alors ressuscité, montrant à tous que Jésus était totalement juste et qu'il n'était pas mort pour ses fautes, mais bien pour les nôtres. Le message de la grâce, c'est que toute personne qui se repent de sa vie de rébellion contre Dieu et qui met sa confiance en Jésus reçoit le pardon pour ses fautes et la vie éternelle. Toute personne, quelle que soit la nation, qui croit que le sacrifice de Jésus est vraiment suffisant pour que la colère de Dieu soit apaisée, ne vit plus pour elle-même, mais pour son Seigneur. Vous reconnaissez-vous comme pécheur ? Entièrement perdu sans Christ ? Pour votre salut, comptez-vous uniquement sur Jésus et sur ce qu'il a accompli à votre place ? Avez-vous renoncé à vous-même pour le suivre ? Si c'est le cas, vous avez répondu à l'Évangile. Et pour celles et ceux d'entre nous qui ont répondu un jour à cet appel du Seigneur, où en sommes-nous aujourd'hui ? Quel chemin avons-nous parcouru jusque-là ? Allons-nous, au bout du compte, nous retrouver confus devant le Seigneur parce que nous ne nous sommes pas préparés à l'éternité ? Le pasteur américain John Piper mentionne ce qui est pour lui une grande tragédie. Il raconte l'histoire d'un couple de retraités quinquagénaires qui profitait de son bateau pour partir en croisière, qui faisait du sport et qui complétait leur collection de coquillages. Et voici son commentaire à ce sujet. Quelle tragédie, parvenir à la fin de votre existence, de votre unique et précieuse existence offerte par Dieu. Et considérez que votre ultime grande œuvre, celle qui précède immédiatement votre comparution devant le Créateur pour lui rendre des comptes, doit consister à faire du sport et à ramasser des coquillages. Imaginez ces deux personnes devant Christ lors du grand jour du jugement. Regarde, Seigneur, regarde mes coquillages. Voyez-vous la tragédie ? Que parvenu à la fin d'une belle vie de retraité, cela se termine ainsi. Que pensez-vous que le Seigneur répondra ? Pour les chrétiens, il existe une grande tension entre les préoccupations de ce monde qui peuvent nous accaparer toute une vie et les réalités d'en haut qui sont d'une qualité supérieure. Il existe une grande tension que nous vivons tous et nous la sentons très fortement lorsque nous sommes attirés par tout ce qui est précieux ici-bas. Jésus est venu dans notre monde il y a 2000 ans pour nous enseigner à nous préoccuper d'abord de son royaume et de sa justice. D'où toutes ces paraboles que nous abordons durant cet été, pour que nous puissions nous focaliser sur l'essentiel, le plus important. Pas des coquillages, mais l'éternité. Contrairement à leurs contemporains, les vrais disciples de Jésus font peu de cas de leur vie terrestre, car ils ont trouvé en Christ une joie plus profonde. Ils ont trouvé en Christ un bonheur inégalable. S'occuper de son champ ou de ses affaires devient secondaire parce que ce que Dieu nous offre est tellement meilleur, tellement supérieur. Sa présence, sa communion, son amour, sa grâce, sa bonté, sa gloire, sa puissance, sa grandeur, sa majesté, sa sainteté, sa sagesse, sa justice, sa souveraineté, sa providence. Tout ce que je viens d'énumérer est nettement supérieur aux attraits de ce monde. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je pense que personne ne souhaite se retrouver devant le Seigneur en étant honteux et confus, de se dire « Regarde Seigneur mes coquillages, regarde ce que j'ai amassé ici-bas. » Non, je pense que personne ne souhaiterait être dans cette position-là. Personne ne souhaiterait être dans la position de l'invité qui est venu sans habit de noces. Jésus disait juste précédemment aux chefs religieux, Matthieu chapitre 21, verset 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Même s'il n'est pas évident d'identifier ce que symbolise l'habit de noces, il est clair que celui qui n'en porte pas sera exclu du festin. De même, ceux qui ne portent aucun fruit seront exclus du festin. Et une manière donc de savoir si nous marchons toujours selon la volonté de Dieu, c'est de voir s'il y a des fruits dans notre vie. Est-ce que nous laissons vraiment le Saint-Esprit produire ses fruits dans notre vie? Et à ce titre, un extrait de la deuxième épître de Pierre peut nous éclairer. Et je vous invite à suivre la lecture de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. » Et je continue. « Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut, et comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Est-ce que c'est l'effort qui caractérise ma vie présente en tant que disciple de Christ? Est-ce que je retrouve dans ma vie, avec la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance, la piété, l'affection fraternelle, l'amour? Est-ce que je fais des efforts dans cette direction-là? Pierre nous montre ici que sans ces qualités, nous nous conduisons comme des aveugles, comme des gens qui ont oublié l'œuvre de Christ pour eux. La vie chrétienne n'est pas une vie statique, mais une vie en mouvement, constamment en mouvement. Si je sais que Dieu m'a choisi, que je fais partie de cette minorité qui a répondu favorablement à son invitation, qu'est-ce qui, dans ma vie, confirme cet appel de Dieu ? Et si je ne constate aucun changement profond, aucune soif de mieux connaître Dieu, aucun élan qui fait que j'aime toujours plus mes frères et sœurs, eh bien, c'est peut-être le signe que je n'ai pas vraiment répondu à l'appel de Dieu. Si je ne retrouve pas les qualités mentionnées ici dans ma vie, c'est que peut-être je n'ai pas vraiment répondu sincèrement à l'invitation de Dieu. Dans ce cas, il faut se reposer la question. Par contre, si j'ai vraiment répondu à l'appel de Dieu, je dois être capable de voir que j'ai changé. Je dois être capable de voir que mon cœur a été transformé depuis que je suis en relation avec le Seigneur. Je dois être capable de voir que je ne suis plus le même, la même qu'avant. La vie chrétienne est une vie en mouvement, où je vais de changement en changement. Et si je ne constate pas cela, c'est peut-être parce que je n'ai pas bougé depuis le départ. Et peut-être parce que, en fait, je n'ai pas répondu réellement à l'invitation du roi. Mais si nous pouvons constater tout cela, si nous pouvons voir que nous sommes en train de faire des efforts, que nous cherchons effectivement toutes ces qualités, alors visiblement, Pierre nous dit que nous pouvons avoir cette assurance du verset 11, cette assurance que nous serons grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Finalement, peu importe d'avoir un carton d'invitation d'un duc ou d'un roi, peu importe aussi si nous connaissons personnellement l'un des souverains de ce monde, le privilège est encore plus grand quand nous recevons du roi des rois une invitation. Le royaume des cieux ressemble donc à ce roi qui invite, qui appelle à venir au festin des noces. Et nous portons tous la responsabilité de notre réponse. Un refus, une négligence, une hostilité conduisent à des conséquences dramatiques. Et à cause de son péché, l'être humain est capable de s'exclure lui-même du royaume de Dieu. Soyons donc attentifs aux paroles de Jésus ici. Dans sa grâce et sa patience, Dieu appelle encore aujourd'hui. Et il le fait à travers son Église, quand nous obéissons comme ses serviteurs en allant vers tous ceux que nous trouverons. Mais avant d'appeler les autres, assurons-nous que nous ne faisons pas seulement partie du nombre des appelés, des invités, mais aussi des élus. Et j'aimerais simplement mentionner ce cantique qui existe en anglais, que j'ai traduit, ce cantique qui est comme un dernier appel que je vous laisse. Tout est prêt, venez au festin. Venez, car la table est dressée. Vous qui avez faim, vous qui êtes fatigués, venez, et vous serez richement nourris. Et le refrain, entendez l'invitation. Venez, tous ceux qui le veulent. Louez Dieu pour le salut complet de tous ceux qui le veulent. Tout est prêt. Venez au festin. Venez, car la porte est grande ouverte. Une place d'honneur vous est réservée aux côtés du maître. Tout est prêt. Venez au festin. Venez, car il attend pour vous accueillir. Ne tardez pas, car ce jour est à vous, demain n'arrivera peut-être jamais. Tout est prêt, venez au festin, laissez tous vos soucis et vos conflits terrestres. Venez, régalez-vous de l'amour de Dieu et buvez la vie éternelle. » Et de nouveau le refrain, « Entendez l'invitation. Venez, tous ceux qui le veulent. Louez Dieu pour le salut complet de tous ceux qui le veulent. » Amen.